Les causeries de Charlie. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à nos causeries de Charlie autour du dernier numéro. Alors, c'est le numéro du 8 mai, donc nous sommes...
Le 7.
Le 7, bien évidemment, mais il est déjà disponible puisque nous l'avons sous la main. Alors, pour en parler, bah, comme on est dans une période de pont, les gens sont soit en vacances, soit partis, on retrouve deux valeureux de Charlie, c'est-à-dire Antonio Fischetti.
Bonjour.
Antonio Fischetti, bonjour. Et puis Gérard Billard.
Bonjour,
bonjour Gérard.
Alors,
Antonio Fischetti qui a d'autant plus de mérite d'être là, puisque toi, tu nous reviens d'où ?
Eh bien, d'Amérique du Sud.
D'Amérique du Sud, c'est des mots qui font rêver ici. Nous qui n'allons nulle part, sinon du 4e au 3e et du 3e. Bien.
Oui. Ben, j'étais invité en fait au Salon du Livre de Bogota pour un livre, c'est totalement improbable, hein, puisque c'est un livre que j'ai écrit il y a à peu près, je sais pas, 6 ou 7 ans, sur les chats et les chiens, donc pour plutôt un jeune public, et donc j'en ai profité.
C'est un livre pour enfants.
Ben non, enfin jeune public, ça veut pas dire enfant, parce que c'est toujours un peu péjoratif, enfant, on a l'impression qu'on s'adresse qu'aux enfants.
Non,
disons que c'est à partir de 7-8 ans, on peut le lire, mais après, on peut le lire à n'importe quel âge, donc voilà, c'est enfant, j'aime pas. Moi, je ne crie pas pour les enfants.
Est-ce que ça fait partie des livres qu'on aime retrouver au fil des ans ?
Intemporel, la preuve, c'est que là, par exemple, j'avais un public plutôt, disons, oui, il y avait quelques jeunes quand même dans un collège, mais sinon, il y avait beaucoup de dames à chien-chien et de dames à chacha. Je pensais pas qu'il y en avait autant en Amérique du Sud.
Oui, parce que l'Amérique du Sud, ils aiment.
Ouais. Oui, et ben en fait, oui.
C'est marrant, c'est quand on pense à la Colombie, on pense pas immédiatement aux dames à chat et aux dames à chien.
Et ben en fait, ouais, c'est assez marrant parce qu'il y en a même, ils se promènent un peu.
Gros moustachu à cougar, mais le cougar, le fauve.
Et surtout, non, ce qui m'a étonné encore plus, c'est qu'il y a un salon du livre. Alors, justement, c'est bien d'en parler au moment du décès de Bernard Pivot, puisqu'il y a un salon du livre donc, absolument exceptionnel, vraiment.
Oui,
moi, j'ai retrouvé les grandes heures du salon du livre de Paris, avec ses allées, ses pavillons, ses gens passionnés de livres, alors qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment ça à Paris. Hein. Le salon du livre est vraiment réduit à peau de chagrin. Hein. Ouais. Et donc, il y a vraiment un public, surtout en Amérique
du Sud,
avide de lecture.
Mais à Bogota, c'est le salon du livre d'antan, quoi. Le salon du livre...
Ah oui, avec ce fourmillement de gens passionnés, puis surtout très francophiles.
Mais on m'a dit que la moitié des gens étaient venus pour toi. Voilà. Donc c'était peut-être pas comme d'habitude. Cette année, comme tu étais là, je pense qu'ils ont battu des audiences qu'ils n'avaient pas habituellement.
Oui, sans doute, ouais, j'espère.
Avec ton magnifique livre sur les chiens et les chats.
Oui, mais justement, j'étais dans les collèges, tout ça.
Un chien qui nous accompagne toute la vie, tu nous as
voilà,
dit.
Voilà, ouais. Non, mais il y a une sorte de... Enfin, on ne se rend pas compte qu'on incarne quand même une certaine culture, beaucoup en Amérique du Sud encore, ou avec ces idées de... Voilà, nous sommes le pays de Flaubert, de Zola...
D'Antonio Fischetti.
Donc toi, tu représentes un peu tout ça, toute cette France des Lumières.
Voilà.
Mais sinon, pour changer, t'es allé en Équateur.
Voilà, alors donc, ouais, pour en revenir à des choses, voilà. Bon, donc, j'ai fait des reportages, et notamment celui qui sortira la semaine prochaine sur le narcotrafic en Équateur, qui est devenu le premier port, enfin disons le premier pays exportateur de cocaïne aujourd'hui. En quelques années, ça a complètement basculé.
Oui, voilà. L'Équateur, c'était un petit peu l'état un peu calme, un peu tampon presque. Et puis,
voilà, et puis ça s'est déplacé. Et là, vraiment, une criminalité qui a explosé. Et donc, surtout le port de Guayaquil, où là, justement, l'état colombien, donc équatorien, a déclaré une guerre ouverte aux gangs. Et donc, moi, j'étais dans ce port, donc je raconterai tout ça la semaine prochaine.
Et tu as senti la violence, tu as senti le danger, tu as senti...
Ça dépend ce qu'on fait, parce qu'en fait, quand c'est comme si on va dans un quartier, dans Marseille, si on tombe pas en plein règlement de compte, tout a l'air normal. Mais en fait, voilà. Donc, on le sent par des petits détails, parfois. Bon, voilà. Mais sinon, après, on le sent aussi quand on commence à discuter avec les gens et quand on regarde ce qui se passe, les actualités. Ils ont pris en otage direct un plateau de télévision. Ils ont fait une destruction des mitraillettes, des machettes, c'est quand même hallucinant. Imaginons ça un seul instant en France. Quand on regarde les statistiques, il y a eu, j'ai fait à peu près le décompte, dont un candidat à la depuis deux ans, hein, candidat à la présidentielle qui a été tué, 16 personnalités politiques qui ont été tuées, conseillers municipaux, maires, etc., deux directeurs de prison, plus alors, je ne sais plus combien, 500 donc détenus dans les prisons parce qu'ils se battent entre eux. Enfin, Durán, là où j'étais, c'est le record mondial, selon certaines estimations, hein, certains chiffres, en termes de criminalité, avec plus, je crois, 146 homicides par an pour 100 000 habitants. Alors qu'à France, on est à peu près à 1. Un homicide pour 100 000 habitants par an. Donc voilà, c'est quand même... Et que les pays les plus forts, c'est à peu près 45, 46 homicides, ou 50 à peu près. Voilà, donc aujourd'hui, là, c'est vraiment une explosion. C'est un basculement qui s'est opéré extrêmement récemment, quoi.
Et t'as réussi à t'en sortir.
Oui, après, bon, bah, il y a des endroits, il faut faire un peu gaffe, hein, quand même, parce que là, par exemple, des endroits dans cet endroit, ce port, on ne peut pas y aller. D'habitude, les journalistes vont dans des endroits avec des associations, comme tu avais fait à Marseille. Là, c'est absolument impossible.
Hein, bah, parce y aller avec une association, non, quand même, ça fait l'armée.
Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Et la police, là, il faut y aller avec...
Très bien organisé.
Il faut y aller avec gilet pare-balles, les flics et tout, sinon, même des gens du coin, c'est dangereux pour eux, parce que même s'il y en a qui voudraient, et après, si on s'en va, eux, ils vont être ciblés et donc ils vont avoir des problèmes. Donc ça se fait, voilà, par respect pour eux, il ne faut pas trop faire ça. Donc on peut y aller que dans ces conditions. Voilà. Donc bah, je racontais, j'ai pas tout dire parce que normalement c'est dans le papier.
On va pas déflorer ce grand reportage.
Il est déjà écrit, ce reportage.
Quasiment, j'ai le finir là.
Je l'attends d'ailleurs.
Tout à l'heure.
J'aimerais bien avoir ce papier.
Tout le temps que vous perdez ici, c'est du temps à pas écrire ton papier.
Mais, ouais.
Mais tu es là par plaisir aussi.
aussi.
Alors, donc 140 morts pour 100 000 habitants.
Par an, ouais.
Par an, ça fait quand même pas mal de cold case.
Ah bah oui.
Oula, quel enchaînement. Formidable. Grand professionnel.
Parce que ton papier de cette semaine
oui.
s'attache au cold case, mais les cold case à la française.
C'est ça.
C'est-à-dire un peu du cold case de bras cassé.
Ouais, on reste dans le crime. Hein.
Alors c'est tout nouveau, ce truc de cold case.
Bah, tout nouveau, oui. Alors, c'est vrai qu'on en parle un peu plus.
On appelait ça autrement, avant.
Ouais. Hein,
mais il voilà. y a une espèce de brigade dédiée, là, à présent.
Oui, ben oui, depuis, c'était quand deux ans, il y a eu un pôle cold case à Nanterre, hein, en mars 2022, qui a été créé, justement pour résoudre ces anciennes affaires dont on ne parlait plus, donc que tout le monde avait oublié même, et que maintenant on peut résoudre en reprenant les enquêtes.
Mais alors qu'est-ce qui fait
à zéro.
Parce que des cold cases, il y en a plein, enfin j'imagine, d'enquêtes non résolues, parce que toi, tu avais fait une statistique à un moment, combien il y avait de tueurs dans les rues, liberté, c'était quoi?
Ben oui, alors bon, j'ai plus les chiffres en tête, hein, comme ça, parce que tu me prends à froid, mais grosso modo, s'il y avait à peu près, je crois, 800 meurtres par an en France, hein, on dit qu'à peu près, il y en avait, dernière statistique, je crois, 70% à peu près résolus, ça fait 30%, donc 800 par an, tu as 10%, 240. Ça fait 80, ouais, 3, ça fait 200 à peu près, hein, donc depuis 10 ans, en gros, ça fait 2000, tu vois, meurtriers, pas 2, 3000 facilement,
voilà.
qui pas sont...
forcément, parce que ça peut être pour plus... Certains meurtriers peuvent commettre plusieurs meurtres.
Oui, mais on peut considérer que les tueurs en série sont plutôt minoritaires, quoi, mais qui, même si effectivement ils interviennent, mais enfin disons, ça fait quand même quelques milliers de criminels qui n'ont jamais été arrêtés. Et donc si on ramène ça à la population, hein, donc ça veut dire que forcément sur 60 millions d'habitants... Ouais, on a croisé forcément un tueur dans son arrondissement ou dans son village. Il y a un tueur en liberté, quoi.
On réveillon Noël, un convive sur deux est un tueur en série.
Ouais,
c'est
voilà.
ça
voilà. Oui.
Non, mais tu dis que c'est énorme.
Il y a plein de tueurs en liberté. Ouais. Et donc, dans ces cold cases, alors le truc, c'est qu'on en parle comme si un petit peu c'était une fatalité parce qu'on ne pouvait pas forcément arrêter tout le monde parce qu'ils étaient malins ou pas. Ben non, quand on regarde, moi, donc j'ai enquêté avec le cabinet Seband, cabinet d'avocats qui est spécialisé dans les cold cases, qui en a une trentaine à peu près de dossiers sur lesquels ils travaillent. Et ben en fait, je me rends compte qu'il y a des erreurs absolument hallucinantes, soit des enquêteurs, soit des magistrats, des trucs dingues.
Il y a le scandale des scellés
qui se perdent. Des scellés, normalement, par exemple, s'il y a une arme du crime, des indices, en fait. Hein. Et surtout, maintenant, on sait que même 20 ans après...
Mais comment garder tout ça aussi? C'est un bric-à-brac, quoi.
Il suffit
10 ans de scellés, par exemple.
Il suffit de donner les moyens. Par exemple, ils demandent que...
Quand on tue avec un petit objet, genre un tournevis, là, ça va. Mais si on tue avec des dizaines de tronçonneuses dans un commissariat...
C'est rare qu'on tue avec une pelleteuse. Ça arrive.
Ça arrive.
Non, mais c'est-à-dire que régulièrement, ils faisaient du ménage. Et donc, le procureur dit, voilà, il faut faire du ménage. Alors, ils balancent, voilà, les tournevis. Effectivement, alors, ils se disent, tiens, un tournevis qu'on a trouvé, je sais pas, dans le garage d'un dealer. Ben, en fait, ils vont le balancer au même titre qu'un tournevis qui a servi à tuer
une bonne femme.
Voilà, et c'est le cas. Et donc là, quand ils reprennent l'enquête, ils se rendent compte que les scellés ont disparu. Il y en a même un, par exemple, un squelette entier qui était donc conservé parce qu'il pouvait peut-être être le squelette d'une personne disparue. Bah, il a disparu, un squelette entier, quoi.
Il a disparu deux fois.
Et sous forme de kidam et sous forme de squelette.
Donc, voilà.
Il n'est vraiment pas resté en place. Ouais. Bon.
Donc c'est-à-dire, on s'en foutait vraiment, absolument, quoi. Enfin, voilà. Ils étaient incompétents aussi, c'est qu'il y avait vraiment une négligence absolument hallucinante, hein. Des erreurs qui ont été commises, des scènes de crime saccagées.
On est loin des films.
On dit faut mettre un cordon pour protéger. Dans la réalité, tu te rends compte que les gens, par exemple, il y a une scène de crime dans un cas, les flics n'avaient pas de pellicule dans leur appareil photo, ils vont prendre des pellicules, ils reviennent, ils ne protègent pas. Pendant ce temps, le voisin, il arrive, il passe tout à l'eau de Javel, quoi. C'est un truc hallucinant, quoi.
Voilà, un voisin méticuleux qui gâche tout.
Qui gâche tout et qui enlève dans toutes les traces.
À mon avis, c'était le voisin l'assassin.
C'était lui l'assassin, oui. Du reste.
Donc, en fait, en faisant...
J'aime bien aussi l'histoire du policier qui est un peu pudique. C'est-à-dire qu'il prend des photos... mais comme il est pudique, il prend que des photos en plan large.
Ouais.
Le truc, en fait, t'as rien pour t'appuyer parce que t'as plus les photos de près du type. Tu vois.
C'est ce que me disait justement l'avocate. J'ai contacté Marina Lali, c'est-à-dire sur constater ça plusieurs fois et sur notamment ce cas dont tu parles, c'est-à-dire c'est très important d'avoir des scènes, des photos de la scène de crime, quoi, en gros plan pour voir s'il y a des indices. Et ben en fait non, c'est vraiment un peu comme s'il y avait le policier trouvait que c'était trop immonde, trop voilà, il a pris du recul, mais bon du coup il y a plus d'indices exploitables.
On voit à peu près quel temps il faisait ce jour-là, mais très peu la scène de crime.
Ouais, voilà. Donc c'est pas des fatalités. Il y avait vraiment maintenant on peut supposer, espérer en tout cas que les choses soient un petit peu améliorées.
Mais maintenant il y a une loi qui dit qu'on doit les garder 10 ans.
Avant les scellés c'était 6 mois. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, s'il y avait eu par exemple un non-lieu, ils balançaient, ils faisaient le ménage. Alors qu'on sait que des traces ADN peuvent être conservées indéfiniment. On a des traces ADN de mammouth qu'on peut récupérer et analyser, quoi. Donc franchement, évidemment que on peut conserver des scellés. Il faut conserver. Et la loi a changé depuis.
C'est rare que les mammouths commettent des crimes.
Voilà,
ils sont prescrits. Ils sont prescrits.
On a retrouvé des cadavres d'hommes préhistoriques.
Et le voisin qui lave tout à l'eau de Javel. Le gars de la grotte d'à côté qui va. Donc voilà, bon. On ne progresse pas. Donc bon, il y a de l'espoir. Mais alors, qui les saisit? C'est les gens qui viennent voir ce cabinet d'avocats qui leur dit, écoutez, grand-mère aimerait bien qu'on soit même savoir qui, etc. Ou alors c'est la justice qui se ressaisit elle-même? Comment ça se passe?
Comment l'affaire n'est pas prescrite, donc effectivement, la justice peut se dire ce dossier tout court encore, donc on va remettre ça parce qu'il y a de l'espoir. Parce que justement, il y en a tellement. Voilà, ils vont pas tous les réexaminer. Comment ils choisissent après, c'est aussi par exemple la pression médiatique. C'est pour ça que nous, en tant que journalistes, on a un rôle à jouer, parce que effectivement, une affaire dont on parle un peu plus, les magistrats vont peut-être davantage avoir tendance à s'y intéresser, à s'en préoccuper, qu'une affaire dont plus personne ne parle, s'il n'y a plus de parents, parce que les gens, le problème, c'est que les gens qui sont, par exemple, dont la fille a été tuée, qui sont des petites gens qui n'ont jamais vu un un avocat de leur vie qui n'ont aucun moyen financier, qui ne savent pas du tout s'y prendre, qu'il n'y a pas de presse, c'est oublié totalement. Alors que si c'est une affaire médiatisée, reprise dans les émissions télé, etc., et de la famille qui est encore là pour s'en occuper, qui peut aussi payer des avocats,
Tu dis, ça ne marche pas toujours, hein, parce que le petit Grégory, on ne sait toujours pas.
Non, ça, c'était négatif.
Il y a eu aussi beaucoup d'erreurs de fait, justement, là aussi, c'est pareil.
L'effet tunnel.
L'effet tunnel, justement, c'est quand aussi, il y a des questions psychologiques aussi, c'est quand les enquêteurs sont tellement persuadés d'avoir un bon suspect
Quand il y a un arabe dans le coin, ça s'appelle l'effet tunnel.
Ça s'appelait l'effet Dupont-Lajoie aussi, apparemment. Petit ami arabe de la fille, c'est sûrement lui.
Et on néglige les autres pistes, on travaille pendant 10 ans là-dessus, on n'obtient rien, et puis pendant 100, après, c'est trop tard pour étudier les autres pistes qui auraient peut-être été exploitables avant.
Il y a des policiers flemmards, il y a des policiers mal intentionnés, il y a des policiers pudiques, ça dépend beaucoup du policier, tout ça.
Mal intentionné, je sais pas, je pense que c'est vraiment, puis aussi des questions de moyens, évidemment, dans le sens où, par exemple, comme me disait Maître Seban, vaut mieux, si j'étais un tueur, je tuerais plutôt le 15 août ou à Noël, parce que le truc, c'est qu'il y a, moi je connais aussi en Saône-et-Loire, Montceau-les-Mines, une affaire aussi, c'était 2 jours avant Noël, donc une fille qui se fait tuer, 123 coups de couteau, Christelle Blétry, qu'est-ce qui se passe? Donc les gendarmes ou les policiers, donc la police scientifique n'est pas là, c'est Noël, c'est les vacances, les gens du coin s'en occupent, ils sont pas habitués, parce que c'est comme un chirurgien, celui qui fait une opération tous les jours, une moyenne par semaine, il est plus performant que celui qui fait une opération tous les 10 ans, quoi. Et donc les policiers du coin n'avaient jamais eu affaire à un homicide, donc ils savent même pas s'y prendre. C'est à se dire s'ils regardent la télé au moins, parce qu'ils savent, ils ont même pas protégé la scène de crime. Ils le facteur pas le était passé, le voisin, le maire était venu voir ce qui se passait.
Le maire qui vient.
Mais c'est pas des conneries, c'est caricatural, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Donc du coup, il faut aussi des moyens, il faut que les gens soient formés, etc. Et puis, il y a aussi, quand c'est des... on en revient toujours à ça aussi, quand c'est des petits gens qui sont pas, qui viennent pas voir la justice, et les gens, ils savent même pas ce qu'il faut faire, ils savent même pas qu'ils doivent contacter un avocat. Il faut que l'avocat aussi, il soit entreprenant, soit pugnace, pour qu'il demande des expertises. Là, par exemple, plus de 20 ans après, ils ont trouvé le coupable. Comment? Parce que pendant des années, le cabinet Seban demandait des expertises des sous-vêtements de cette fille. Le juge d'instruction disait, c'est pas la peine, elle a pas été violée, parce que le médecin légiste a dit qu'il y avait pas de viol. Parce que ça coûte cher de faire des analyses ADN, donc il voulait faire des économies, il refusait. Au bout d'un moment, à force justement de persévérance, le juge d'instruction a accepté. Résultat, ils ont trouvé du sperme, ils ont trouvé de l'ADN, et comme le mec était fiché, ils ont réussi à choper le mec.
Alors qu'ils ont pu
le choper 10 ans avant, puisqu'il était déjà fiché depuis 2004.
Et entre-temps, il a peut-être de nouveau commis d'autres crimes.
C'est ça. Il faut qu'ils enquêtent aussi. Ils ne savent pas, mais enfin, ils continuent l'enquête pour savoir s'il en a commis d'autres.
Parce qu'il y a des médecins légistes assez farfelus aussi. Le gars, il manque le vagin. Il dit que c'est les asticots qui les ont mangés.
Les asticots sont très gourmands.
Les médecins légistes ont aussi des idées un peu étonnantes. Ça repose beaucoup sur l'humain. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est-à-dire que là, on croit que tu commets un crime, tu vas être pris tout de suite. Non. T'as quand même ta chance. Et puis même si tu peux espérer, si tu fais ça à 15 août, tu peux espérer de t'en tirer 10 ans tranquille avant qu'on commence à se manifester autour de toi.
Veux donner des conseils aux éventuels.
C'est bien d'avoir de l'espoir.
C'est bien que les assassins aient de l'espoir. Vrai.
Parce qu'on nous bourre le crâne, qu'on sera puni, ce truc judéo-chrétien. On peut tuer quelqu'un et puis s'en sortir très bien. Un petit peu le... la bonne fin de ton histoire, quand même, c'est que moi je trouve que c'est plein d'espoir pour les assassins.
D'une certaine façon, oui. Et puis d'ailleurs, aussi un autre problème, c'est justement comme le disait l'avocat Seban, c'est que la modernité n'est pas forcément un facteur de progrès, puisqu'ils ont changé des logiciels. Ils ont changé des logiciels. qui font que les dossiers...
On ne peut plus lire les anciens dossiers.
Et on ne peut plus lire les anciens dossiers. Donc, il dit qu'il y a une mémoire criminelle de la France qui va être perdue. Parce que tout n'est pas rentré dans les nouveaux logiciels. Les nouveaux logiciels n'ont pas accès aux anciens dossiers.
Une chance supplémentaire.
Donc, encore une chance supplémentaire, effectivement, pour les assassins.
Bon, tout à fait. On va saluer les assassins qui nous écoutent. En disant
statistiquement, il y en a forcément. Hein.
Bien évidemment. Forcément, attention.
N'exagérons rien, on a quand même deux auditeurs.
Nos chiffres d'audience et on n'est pas sûr qu'il y ait des assassins qui nous écoutent.
Non.
Peut-être à Bogota, ou dans ces coins-là, où il y a plus d'assassins.
Oui.
On est diffusé dans les prisons, non ?
Qui veut nous écoute, puisque c'est sur des plateformes.
Ah oui, bah oui.
De Deezer, de Spotify et de tout ça.
Oui.
Qu'on peut nous retrouver d'ailleurs la semaine prochaine, parce que je crois qu'on a un peu tout dit là. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Parce que
il n'y avait que moi, non ?
Oui, il n'y avait que toi. C'est les gens qui sont encore là.
Non, non, mais je pourrais dire tout l'article, mais en fait, je n'ai pas envie de tout déflorer. Là, on a cité que quelques exemples. Il y en a beaucoup d'autres encore.
Ton style croustillant, là, on se régale à chaque phrase.
Voilà. Ouais. Donc, il faut lire l'article pour en savoir plus. Il faut lire, donc, la semaine prochaine, l'Équateur.
L'Équateur,
on reste dans la criminalité. Hein.
Est-ce que tu veux dire, ce quelques mots sur Bernard Pivot ?
Bernard Pivot, oui, effectivement. Mais moi, je n'étais pas fou de Bernard Pivot, je t'avoue. Qu'est-ce qu'il disait ? Parce qu'on a un jeune qui nous a dit « Je sais qu'il était important pour des gens d'une certaine génération. »
Oui, mais tu es d'une certaine génération, quand même.
Oui, mais non, j'étais pas...
Comme moi, d'ailleurs. Comme nous trois.
J'étais pas tiré par le livre qu'il présentait, tu vois. J'étais pas...
Bon, il présentait de tout, hein.
Ouais, mais...
Il me présentait même des livres de Cavana.
Ah oui.
Bien sûr, se souvient de dramatique émission avec l'histoire Bukowski et Cavana.
Bukowski, voilà.
Donc, ouais.
Bon, il était un peu fâché contre Cavana, qui fait taire Bukowski, mon idole. Donc c'est un petit peu. C'est pas une émission non plus qui restera pour moi comme la plus fantastique. Enfin bon. Moi, je t'avoue que j'aimais mieux Pollack. J'ai découvert plus de livres avec Pollack, si on va par là.
Oui, c'était
parce qu'il avait une séquence littéraire dans le... Comment c'était son émission ?
Droit de réponse.
Dans Droit de réponse, il y avait une fois par mois, etc. Un truc littéraire une fois par mois. Et là, j'ai découvert des auteurs, par exemple. Hein. Des auteurs qui étaient plus... La Fante, tu vois, des gens comme ça.
Oui, et puis Droit de réponse, c'est toute première apparition de Charbe aussi, hein.
Aussi. Donc, en jeune étudiant.
En jeune lycéen, qui faisait un journal lycéen.
Ouais.
Oui. Son esthétique n'était pas encore tout à fait faite, puisqu'il vouait une espèce de culte à Plantu. Heureusement, il s'en est remis par la suite.
Cabu,
les deux. Il ne savait pas encore distinguer le bon grain de l'ivraie.
Voilà.
Donc oui, toutes ces émissions littéraires, quoi qu'elles en soient, nous manquent, puisque là, maintenant, elles existent quasiment plus.
Parce que
Pivot, c'était quand même 8h30.
Oui.
Oui,
ça n'existe plus.
Et puis ça durait. Durait pas qu'une heure, hein, c'était jusqu'à minuit. Hein, c'était vraiment toute une soirée où on parlait, de livres.
Oui, il se dit quand est-ce que ça commence au cinéma de minuit ? Alors c'est encore porté, c'est encore.
C'est une époque où les gens lisaient. Aujourd'hui, c'est vrai quand même que.
On en revient à tes salons du livre.
Le livre est un espèce en voie de disparition quand même. Enfin, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de livres, mais aujourd'hui, les éditeurs te disent quand on vend 10 000 exemplaires d'un livre, déjà, on est super content. Alors qu'avant, 10 000, c'était presque un échec. C'était un best-seller se vendait à 100 000 exemplaires. Aujourd'hui, ils en vendent 2-3 000 déjà. Oh là là, on est heureux, quoi.
Que faire ?
Peut-être sortir moins de livres.
Ah oui.
Peut-être, oui.
Parce qu'il y a ça aussi. Hein.
Oui.
Que des livres essentiels, tels le livre de Tonio sur les animaux.
Par exemple.
Qui, 7 ans encore par après.
Traduit en plus de 10 langues.
Plus de 10 langues, célébré jusqu'à Bogota.
Voilà, ouais.
Il y a quoi ? Il y a Le Petit Prince de Saint-Exupéry, puis il y a le livre de Tonio sur les animaux.
Je pense pour le voilà.
Les livres qui nous accompagnent tout le
temps. Un livre que l'on peut lire de 7 à 77 ans.
Je crois qu'on est là-dessus, quoi.
Mais que ça, voilà.
Vraiment. Malheureusement, on n'est pas Saint-Ex ni Tonio qui veut.
Voilà.
Foutre de ma gueule cette émission, j'ai bien fait de venir. Hein.
Après cette dernière digression, il est vraiment temps de dire cette fois-ci au revoir.
Eh bien,
au revoir.
Bonne semaine.